Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty, on va parler de Benoît Saint-Denis, de sa défaite malheureusement, la première pour BSD chez Lightweight, la première par KO dans sa carrière, quelle suite pour Benoît Saint-Denis, qu'est-ce que ça implique Benoît Saint-Denis qui a quand même reçu de beaux hommages de la part de Dustin Poirier et Dana White, on va voir tout ça avec Big Rusty, fraîchement revenu de Miami, d'ailleurs on tenait avec Big Rusty à tous vous remercier, tous les participants du La Sueur Trip, parce que vous êtes venus en nombre pour soutenir BSD et ça faisait vraiment plaisir.
Ouais, bah, et d'autant plus que, pour regarder l'event, moi, j'étais juste au-dessus de vous, et vous ne le saviez pas. Mais du coup, c'est pour ça qu'on a mis même des stories, et au moment donné où vous chantiez la Marseillaise avec les drapeaux, et c'était beau.
Soit.
Benoît Saint-Denis, première défaite face à Dustin Poirier. On va voir un petit peu les pistes par rapport à ça. En tout cas, c'est vrai qu'il y a deux choses, j'ai l'impression, qui aujourd'hui font le tour sur Twitter. C'est d'un côté BSD qui est allé peut-être un peu trop à la guerre, un peu trop généreux face à Dustin Poirier dans les échanges en striking. Et deux, BSD qui aurait eu pas un, mais deux staphylocoques. C'est Cyril Diabaté qui avait échangé avec Daniel Voiret, qui avait partagé ça en story selon toute vraisemblance. Donc un BSD qui était diminué et en plus un BSD qui n'aurait pas suffisamment écouté Daniel Voin, qui l'avait rappelé à l'ordre entre le premier et le deuxième round, Big Rusty. Je sais pas par quoi tu veux commencer.
Effectivement, ça fait beaucoup. J'ai l'impression que sur les... En tout cas, dans l'esprit des gens, et je sais que c'est horrible ce que je vais dire, parce que c'est factuel, le fait que Benoît a eu des staphylocoques, mais j'ai l'impression que dans l'esprit des gens, c'est pas ce qu'ils veulent entendre nécessairement. Donc, après... Maintenant qu'on a dit ça et que donc oui, forcément, il y a des gens qui diront « voilà, ça y est, toujours les excuses, etc. » Dans les faits, Benoît, effectivement, s'il avait déjà un, mais même deux, des staphylocoques et donc qu'il était probablement mais bourré d'antibiotiques, c'est une évidence que du coup, physiquement, il était atteint. C'est comme il l'a dit dans son message, du coup, ça ne fait... Il a eu un round en lui. Après, du coup, pour moi, il y a deux choses. C'est... Premièrement, ça a pu jouer sur son physique, ça c'est une certitude qu'il arrive dans cet état-là. Et là où ça a pu jouer à mon sens, c'est que au deuxième round, du coup, la raison pour laquelle il s'est retrouvé dans des échanges même plus longs en anglaise, qui était le royaume de Dustin Poirier, c'est parce qu'il avançait beaucoup moins et qu'il était moins agressif et qu'il allait vraiment moins chercher Dustin parce que c'est énergivore, etc. Et donc c'est à ce moment-là où il a pris les plus gros coups. Et ce manque d'agressivité, ce manque de « je continue d'avancer quoi qu'il en coûte », etc., forcément, ça peut être lié au fait qu'il avait absolument plus de jus. Maintenant, une fois que cela est dit, le chaos, j'ai quand même l'impression que staphylocoque ou pas, c'est Dustin Poirier qui est extrêmement propre sur son anglaise dans les échanges, et Benoît qui, c'est vrai, a le menton à découvert et du coup la tête qui ne bouge pas et que dans les échanges, c'est surtout ça qui n'a pas pardonné. Donc, le fait d'être fatigué, ça, c'est ça qui a pu amener à avoir ces échanges-là plus longs. Mais le chaos et la manière dont le chaos arrive, pour moi, c'est pas ça. Techniquement, ça n'est pas lié au staphylocoque, quoi.
Oui, et puis c'est pas comme si c'est ça aussi, hein, Dustin Poirier, que ce soit Conor McGregor ou Justin Gaethje, c'est aussi de ces manières-là qu'il les a mis hors d'état de nuire avec son anglaise. Donc voilà, on savait que c'était extrêmement risqué d'échanger avec Dustin Poirier. Et rappelé alors par Daniel Voirin de dire surtout ne va pas à la guerre entre le premier et le deuxième round comme un UFC Paris. Malheureusement, BSD, pour des raisons différentes, dont la fatigue, il s'est retrouvé dans une situation où c'était peut-être pas la meilleure face à Poirier, et malheureusement, donc il s'est fait mettre KO. Moi, à partir de ce moment-là, Déjà, oui, BSD, faut qu'il ait une grosse pause et pas revenir trop tôt, parce que généralement, hein, les combattants, ils ont envie de revenir pour effacer un peu ça, mais c'est vrai que c'est un combat bonus de Fight of the Night, donc c'était extrêmement disputé. Il avait été mis knockdown, enfin flash knockdown contre Dustin Poirier, il s'en est pris des belles aussi, donc vraiment, faut pas, pour moi, au mieux, il revient au mois de mars pour le prochain UFC Paris.
Mars ?
Septembre, je suis complètement fou. Mois de septembre, pardon.
Dans deux semaines, là, oui. Ouais. oui, pareil. Bah, pour moi, effectivement, la septembre, c'est pareil. Mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, 7 mois. Donc, effectivement, non, c'est parfait. C'est parfait parce que ça laisse le temps au corps de récupérer, à l'esprit aussi, à tout le système, enfin, tout, absolument tout. Mais effectivement, enfin, c'est vrai qu'il convient quand même de le rappeler. Donc, là, ça veut dire qu'avant le combat contre Dustin Poirier, il était, Benoît, à 3 combats en 4 mois. Et où il a enchaîné les finitions. Et là, il enchaîne avec Dustin Poirier et il fait visiblement une grosse partie de son camp d'entraînement avec un staphylocoque et donc probablement les dernières semaines sous antibiotiques et qui se ponctue par cette défaite par KO. Ça fait, même pour Benoît, ça fait beaucoup. Même pour un, enfin, pour un seul homme, mais sur, et pour Benoît de surcroît, ça fait beaucoup. Et effectivement, là, du repos absolument, quoi. Faut qu'il puisse profiter même un peu juste de sa famille, qu'il puisse récupérer un petit peu, mais dans tous les domaines de la vie, quoi. Et son corps et tout, familialement.
Et ce qu'il convient de dire aussi, et là je le dis parce qu'il faut le dire, mais j'ai aucun doute que ça n'affectera pas BSD à la manière d'un Justin Gaethje, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous êtes réputé pour avoir un menton qui est absolument imbrisable, que vous mettez une pression de tous les instants, que certes vous prenez des coups, mais que vous les encaissez tranquillement, et ce moment où vous avez votre premier KO, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Il y a beaucoup de combattants qui vont changer ou tout simplement, qui vont plus avoir la même efficacité. Avec BSD, vous connaissez son mental. C'est pour ça que je le dis, parce que historiquement, il y a eu des gros changements chez les combattants, mais pour moi, c'est un combattant BSD où, mentalement, à moins que physiquement, il soit passé une dinguerie, mais mentalement, ça ne changera jamais à ce qui s'est passé. Et preuve en est, il n'avait pas été mis KO, mais son premier combat à l'UFC, qui aurait pu briser n'importe quel gars, parce que c'était très très dur ce qui s'était passé. Il y a même, enfin, l'arbitre de son combat a été purement et simplement viré de l'UFC parce qu'il n'avait pas arrêté le combat. Ça n'a pas du tout changé Benoît Saint-Denis. Mais bon, faut quand même le dire parce que il y a des guerres qui ont changé et des KO qui ont changé des combattants. Comme, et la question se la posait d'ailleurs aussi pour Dustin Poirier qui revenait d'un KO par head kick contre Justin Gaethje.
Ouais, c'est ça. Honnêtement, là, je te rejoins. Je pense que bah, il fait partie de cette espèce d'être humain et de combattant Benoît qui, à mon avis, ça ne l'affectera absolument pas. Et c'est ce qui fait aussi que, malgré le chaos, et pour du coup qu'on transitionne tranquillement vers quel futur, vu la réaction de Dana White après le combat, et comme on sait que l'UFC est très friand des combattants qui ont un suffisamment bon niveau pour être dans le top 15 et qui vont vraiment à coup sûr faire des combats ultra spectaculaires, on pense par exemple à Dan Hooker, on pense à des gars comme Fiziev, etc. L'UFC raffole de ce genre de profil, donc l'avenir est, entre guillemets, est assuré, je pense, pour Benoît, parce que si l'UFC te considère comme quelqu'un qui amène du spectacle et qui a un niveau suffisant pour aller challenger les meilleurs, bah, c'est tout bénef. Ils savent qu'ils peuvent te mettre contre n'importe qui, que ce sera un, compétitif, et deux, que ce sera du bonus pour les fans. Et c'est pour ça que là, enfin, je pense qu'on peut dire sans risque de se tromper que déjà probablement qu'il peut maintenant en France, évidemment il peut être main event d'un UFC Benoît, ça c'est une certitude, mais que maintenant je serais vraiment pas étonné, d'autant plus qu'il vient d'affronter Dustin qui était connu parce qu'il avait affronté Khabib et Conor aussi, donc Benoît de ce fait prend cette lumière là en même temps, bah là je pense qu'on le retrouvera Benoît régulièrement sur des UFC numérotés, hein.
Oui, parce que c'est extrêmement rare. Enfin, j'ai même aucun souvenir, tu vois, de quelqu'un qui montait, hein, qui n'était pas ancien champion, mais classé 12e BSD chez Lightweight, que Dana White dise c'est l'un des tout meilleurs, assurément. Donc ne vous inquiétez pas pour Benoît Saint-Denis. Et juste pour finir, ce côté aussi au niveau des dégâts, il a cette réputation de BSD de faire des guerres, mais l'avantage qu'il avait, c'est qu'on était vraiment sur un combat, par exemple, qu'on bon film où ça se passe très vite pour lui, il prend rien. Le combat contre Thiago Moises, qui est un petit peu plus âpre comme duel, celui contre Frévola, qui est à sens unique. Et là, le combat contre Dustin Poirier, donc c'est pas comme si il avait enchaîné les guerres et que là, il y avait aussi ce besoin de faut arrêter. C'est plutôt l'enchaînement, comme l'a dit Big Rusty, des corps d'entraînement qu'il faut que là, aujourd'hui, il ait ce petit break. Aujourd'hui, dans une situation qui est bien ou pas, d'être très bien considéré par l'UFC, mais c'est vrai que là, pour moi aussi, c'est évidemment positif, mais il faut être dans une situation où il y ait le bon match-up aussi pour Benoît Saint-Denis pour la suite, parce que quand vous êtes forcément considéré par l'UFC, vous l'avez remarqué, quand vous êtes une superstar, vous n'avez pas de cadeau, vous êtes condamné à affronter les cracks de chez crack. Toi, Big Rusty, qu'est-ce que tu mettrais à Benoît Saint-Denis pour la suite?
Bah là, pour moi, ça dépendra de ce que veulent faire l'un et l'autre, mais là, Gamrot vient de gagner contre Rafael Dos Anjos, dont Gamrot était déjà classé quasiment dans le top 5. Il vient de remporter une nouvelle victoire contre Dos Anjos, qui était classé à peu près comme Benoît, je crois qu'il était juste derrière. Bah pour moi, là, un combat entre Rafael Dos Anjos et Benoît Saint-Denis, pour moi, c'est impeccable. Ils sont à peu près à un niveau équivalent en termes de ranking. Ils sortent tous les deux d'une défaite, mais contre des gars de haut profil et qui ont un excellent niveau, on le sait. C'est un nom à l'UFC Rafael Dos Anjos. On sait qu'il est toujours à un excellent niveau, donc battre Dos Anjos, ça veut dire quelque chose toujours. Donc pour moi, là, ça coche à peu près toutes les cases pour revenir sans reprendre directement un Gaethje ou un Fiziev ou un mec comme ça, quoi.
Et ben de mon côté, Big Rusty, le combat que j'aimerais pour Benoît Saint-Denis, je récupérais le ranking, hein, pour pas dire de bêtises, parce que c'est important de faire preuve
d'exactitude.
Et ben voilà, je dis des bêtises, mais j'ai trouvé l'adversaire rêvé pour BSD. Moi, de mon côté, j'irais vers Dan Hooker, parce que ça fait longtemps qu'on parlait d'un combat potentiel BSD-Dan Hooker. Comme je disais, ouais, ça dépendra, faut pas trop... Là, voilà, ça coche la case guerre. Main event à l'UFC Paris, je signe tout de suite, même comme main event, vous mettez ça en 5 rounds. Dan Hooker, ça veut toujours dire quelque chose de le battre. Et comme BSD sort d'une défaite, et que Dan Hooker est classé 10e, BSD 12e, pour moi, je serais vraiment favorable à ce qui est ce combat-là. Voilà, parce que et parce qu'aussi, c'est vrai que Rafael Dos Anjos, je suis d'accord avec toi en termes de tout ce qu'il y a à prendre du côté de Rafael Dos Anjos, le spectacle en moins.
Certes, parce que Dos Anjos, c'est quelqu'un qui est bon partout, même si là, à chaque fois qu'il prend un lutteur, c'est là où... c'est pas que ça pêche, mais c'est qu'il prend les meilleurs du monde en lutte à chaque fois. Donc c'est un peu un running gag dans la carrière de Dos Anjos. Mais... c'est vrai que c'est méthodique, c'est lorsqu'il strike, lorsqu'il... Enfin, c'est vraiment... tout est parfaitement agencé, mais il y a moins ce côté, c'est le chaos. Donc effectivement, tandis que Dan Hooker, c'est un genre de Benoît Saint-Denis aussi, en fait, hein, Dan Hooker, hein, peut-être un peu moins complet, et puis qui utilise moins tout l'arsenal qu'il a dans son MMA. C'est plus quelqu'un qui est connu pour son striking uniquement. Mais allez voir la guerre donc entre Dustin Poirier et Dan Hooker, vous allez voir, et puis tous les combats de Dan Hooker en fait, de toute façon. Mais donc là, voilà, mais d'un autre côté, c'est comme ça, mais donc on envoie Benoît sur encore une nouvelle guerre à coup sûr, quoi. Après, il peut s'en débarrasser vite. Hein.
C'est ce que je me dis, il peut s'en débarrasser vite parce que l'avantage de BSD, vous l'avez vu lors du premier round contre Dustin Poirier, où il se prend pas beaucoup de coups du tout BSD, c'est que les gens le reconnaissent, et je pense que la plupart des gens qui ne suivent pas régulièrement le MMA connaissent BSD pour ses guerres, mais il a tout cet arsenal en grappling qui lui permet de pouvoir passer une nuit relativement tranquille face à un Poirier, face à un Dan Hooker, s'il est à 100%. Et c'est pour ça que moi j'aimerais bien voir ce combat, c'est qu'on peut très bien avoir une guerre, mais on peut aussi très bien avoir un BSD qui arrive à contourner le problème et qui reprend cette marche avant. Et on se dit aussi que c'est intéressant parce que, pour les fans, vous savez que c'est un combat absolument immanquable. Et Big Rusty, avait un dernier point peut-être à aborder concernant le combat qui s'est fait entre Dustin Poirier et Benoît Saint-Denis. On a vu pas mal de gens qui disaient « Mais pourquoi est-ce que BSD est allé faire ce combat? Pourquoi faire un combat amoindri ?» Ben les gars, déjà, au-delà du fait que les combattants viennent tous avec des pépins physiques, et c'est pour ça que on respecte absolument tous les combattants, c'est que l'opportunité qu'il y avait d'affronter Dustin Poirier en co-main event, même si BSD était à 50%, et le premier round nous l'a montré que même à 50%, il peut poser de sacrés problèmes au numéro 3 mondial, c'est que pour moi, tu ne peux pas refuser ce genre de combat-là.
Je suis d'accord.
Ah, si on n'est pas d'accord, pour une fois, ça fera plaisir aux gens.
Ouais, j'avoue bien, on se retrouve au carrefour, là, à côté du supérieur, on se tape. Non, en fait, je suis partagé parce que d'un côté, c'est une opportunité qui est effectivement que tu ne peux pas louper d'affronter Dustin Poirier, le numéro 3 mondial. Et en plus de ça, on a vu que malgré ces conditions horribles, il arrive à, c'est même pas faire jeu égal, il a dominé le numéro 3 mondial pendant 5 minutes.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Après, est-ce qu'il aurait dû... Bah, en fait, après moi, là où j'ai, où je suis un peu partagé, c'est sur le fait que du coup, après le combat, qu'on dise, mais bon, bah, désolé, comme j'avais un staff, je pouvais pas vraiment vous offrir ce que je voulais. En fait, du coup, je suis un peu partagé parce que... Ah, ça me fait vraiment chier, mais j'ai l'impression que c'est un peu, entre guillemets, vouloir les deux. Et tandis que là, bah, si c'est aller au combat avec un staff, bah, dans ces cas-là, ok, mais bah, c'est pas en parler après, c'est pas du jeu, mais c'est, dans ces cas-là, c'est all the way, tu vois.
Après, l'avantage, c'est que c'est un truc où, là où je, et pareil, l'explication de BSD, tu vois, là où moi, ça me pose pas de problème, c'est que tout le monde voyait qu'il y avait quelque chose avec Benoît Saint-Denis. Tu vois, durant la semaine, on disait, c'est ce qu'il a à son front, c'est pas du tout un bouton ou le mec qui est tombé. Enfin, bref, tout le monde savait ce qui se passait. Il y avait pas de souci par rapport à ça. Et donc là, c'est juste, finalement, la confirmation.
Moi, j'y ai cru, les rumeurs, moi. Les rumeurs que j'entendais en mode, c'était un truc gratté, il a gratté truc qui a fait que.
J'ai voulu
y croire, en fait.
Et donc, à la fin, tu vois, je me dis juste, c'est. Tu en parles maintenant parce que le combat est passé, donc forcément je pense qu'il en aurait évidemment parlé s'il avait gagné, et on a parlé parce qu'il a perdu, et donc on avance. Et pourquoi pour moi il faut pas louper ce truc là en plus, j'ai pensé, oui, il s'est fait mettre KO, mais ce qui s'est passé dans le combat valide le fait d'avoir pris le truc. Imaginons un monde où BSD arrive, approche en grappling, genre il se fait mais même malmené physiquement dans ce monde là il se fait terminer en n'importe quoi 30 secondes par Dustin Poirier, et tout, et là on fait ok, là le gars s'est fait rouler dessus, évidemment. Tu peux trasher absolument toute la team, de dire les gars, le mec qui est venu dans la cage n'aurait pas dû faire ça, mais comme il a remporté le premier round, comme il y a l'avertissement de Daniel Voirin, et comme BSD se fait mettre KO en anglaise, là on sait que c'est le point fort de Dustin Poirier, il y a un monde où on sait pas, peut-être qu'il y aura une revanche à terme, mais où même un BSD à 100% ça se termine de cette même manière là parce que Dustin Poirier, comme vous l'avez vu, même d'entrée de combat avec son leg kick intérieur, il était au point de Dustin Poirier sur toutes les phases de striking. Il a joué crânement sa chance à chaque fois. Donc, même un BSD à 100%, on aurait peut-être eu le même résultat. Donc, c'est pour ça que moi, ça me pose pas de problème. Et pourquoi il faut saisir cette opportunité? Regardez Charles Oliveira. Le combat contre Dana White, l'avait dit un petit peu en conférence de presse, c'est il aurait pu gérer la situation différemment. C'est... Il a la revanche contre Islam Makhachev, il ne prend pas ce combat, et là il a un duel en ouverture de carte de l'UFC 300. Bonical combat après lui, donc en ouverture de main carte de l'UFC 300, t'affrontes Tsarukyan dans un combat qui est extrêmement serré, parce que tu n'as pas tenu ta place dans un combat pour le titre où t'aurais potentiellement des points pay-per-view. Pris la ceinture, main event d'une des plus grosses cartes de l'année, et là t'affrontes un gars qui est hyper dangereux, pas du tout pour le même salaire. Donc même si t'es pas à 100%, un choc de cette envergure face à un mec de ce calibre-là, tous les jours tu le prends. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de combattants qui sont dans des situations où ils sont blessés. On se souvient de Cyril Gane, premier UFC Paris, qui était blessé. Ça s'est très bien passé contre Tai Tuivasa, mais t'es pas au mieux. T'es main event à l'UFC Paris, bah en fait faut que t'y ailles, quoi. Même si t'as toutes les raisons du monde de dire bah là j'ai une blessure, je peux pas tenir ma place, il faut parce que si ça se termine bien, les portes qui s'ouvrent.
C'est un hot take là, hein, ce que tu fais. Hein.
De.
Bah de dire, peu importe ton état de santé, une opportunité comme ça, il faut que tu y ailles.
Big Rusty, Conor McGregor contre Chan Mendes, on sait ce qui se passe pour lui avec sa cuisse. Il est à, je sais pas, à 50%, peu importe le pourcentage, genou contre Shawn Mendes, peu importe, l'UFC compte sur toi, c'est ton premier main event d'un pay-per-view, c'est le moment aussi, où je pense que ça joue aussi dans le fait que l'UFC te kiffe ou pas à la fin, c'est que t'as les mecs qui vont avoir les pépins à la Georges Saint-Pierre, à la José Aldo, et on voit qu'ils sont pas dans les petits papiers de l'UFC, et les mecs comme Conor McGregor, comme BSD, comme les Cyril Gane, comme... voilà, énormément de combattants, ou même Thomas Spinal, qui avait mal au dos, et on le prévient à 10 jours, il dit pas de problème, je vais être là pour affronter Sergei Pavlovitch. Bah ouais, mais ouais. Sauf que l'UFC, peu importe que tu perdes ou non, ils vont se dire, bah ce mec-là, je sais que je peux compter sur lui. Et c'est pour ça que moi je dis, à part, je dis peu importe l'état de santé, évidemment, puis aussi t'as bien fait de me coller là-dessus, à part oui, si vous avez, encore que les ligaments croisés, Francis y était allé, mais bref, si, vous avez,
aussi,
si
ouais.
vous avez une blessure qui... Ou clairement vous n'avez rien à foutre dans une cage, mais ce que je veux dire c'est quand vous avez des opportunités de ce genre là, c'est faut quand même se dire s'il y a moyen pour moi de m'imposer et que je peux avoir le bon game plan comme l'avait BSD au premier round, tous les jours il faut y aller.
Voilà.
Parce que le jeu en vaut la chandelle, tu vois Bigre, si on n'est pas sur un combat.
Bah, et de toute façon. Bah en fait, de toute façon, putain, c'est horrible ce que je vais dire, mais la preuve. En est que, et je sais que c'est horrible parce qu'il a perdu par KO Benoît, mais il est encensé par quasiment tout le monde en fait. Dans le sens où, moi j'étais du coup bah, dans la salle des reporters où il y avait, il y avait du coup les gars de RMC, de leur big up à tous les gars, on s'est vu cette semaine, on s'est très bien entendu, c'était trop cool. Mais tous les gens qui étaient d'autres nationalités, je les entendais parler à côté et ils étaient tous en mode... Franchement, ce Benoît, du coup, on entendait beaucoup parler. Bah, après avoir vu le combat, j'en louperai plus un seul dès qu'il entrera dans la cage. Mais vraiment. Hein. Donc, Dana White te dit, putain, maintenant, on sait que le mec, c'est un énorme monstre. Et donc, il reste dans les petits papiers. C'est quoi déjà l'expression qu'il a utilisée, c'est il perd aucune valeur sur le marché des combattants, machin. Il a prouvé qu'en plus, il était capable de battre le numéro 3 mondial au premier round. C'est une guerre, c'est spectaculaire, tout le monde a kiffé, tous les spectateurs. Donc en fait, malgré le résultat défavorable, bah en fait, c'est clair que d'avoir saisi cette opportunité contre en plus de Dustin Poirier, qui est quelqu'un de célèbre, en tout cas dans le monde du MMA, bah ça, c'est pas que ça refait ou que ça solidifie ou que ça fait exploser Benoît, mais aux yeux à l'international, parce qu'en France, c'était déjà une star, mais à l'international maintenant, Benoît, ça y est, il est installé. Et ça, c'est vrai qu'il ne l'aurait pas eu s'il n'avait pas pris le combat. Mais ça me fait bizarre de le dire en fait, parce que c'est comme si, tu sais, on disait, c'est une bonne chose, les gars, oui. À tous les combattants, si vous avez un staphylocoque, si vous avez un bras en moins, allez-y quand même.
Ouais, tout dépend de l'enjeu.
C'est pour ça que ça peut être bizarre, tu vois.
Si vous êtes sur un corps en début de carrière ou autre, évidemment que non, mais là, c'était limite demi-finale vers le titre, ou vers, à partir du moment où tu bats Dustin Poirier, tu fais partie t'es dans les petits papiers de l'UFC, à jamais. Et dernier point, qui est pour moi un mal pour un bien, c'est le fait que BSD soit pris un KO. Pour moi, on est dans la même situation que tu vois que Justin Gaethje avec Trevor Whitman. Justin Gaethje avec Trevor Whitman, jusqu'à ses deux défaites par KO, il ne l'écoutait pas. Il y avait aussi ses problèmes des yeux avant l'opération, mais il ne l'écoutait pas. Et vous avez bien vu Justin Gaethje contre Tony Ferguson. Trevor Whitman lui dit, tu vois les deux fois où t'étais beaucoup trop à l'aise, tu t'es fait finir à deux reprises. Et là, on voit Justin Gaethje à la table qui passe de ah oui, ok, ah coach. Oui. Et là, pour BSD, je pense que c'est très bien aussi pour la suite de sa carrière, parce que là où à chaque fois Daniel Vaughan disait surtout ne va pas à la bagarre, surtout ne fais pas la guerre, BSD il pouvait dire mais écoute, que ce soit les coups de Thiago Moïse, je les encaisse tranquille. Donc enfin, il disait pas comme ça BSD, mais bon, il y avait
ce qu'il a dit. Daniel, c'est tranquille, que je les encaisse avec les doigts comme ça. Il faisait
tranquille. Il savait que il n'allait rien lui arriver. Là, l'avantage, c'est que Daniel Vaughan va pouvoir lui dire. Tu vois ce qui s'est passé contre Dustin Poirier, on ne peut plus se permettre ça. Et toutes les fois, les prochaines fois, parce que ça reste dans BSD, ça reste dans son... Enfin, c'est son style à Benoît, d'aller comme ça.
C'est un chien.
Exact.
Enfin, c'est un chien de guerre. Non mais putain...
C'est un anglicisme, c'est qu'en gros, les Américains disent « It's a dog, he's got that dog in him ». Donc en gros, il y a ce côté... Ouais, bah, il n'y a pas de traduction, mais en gros, chien de la casse, le mec qui veut y aller, quoi. Exactement. Ouais. Donc forcément, en français, ça passe pas du tout. Et l'avantage, là, c'est que pour les prochains combats, Daniel Vaughan pourra lui dire, et même encore en entraînement, bref, pour la suite de sa carrière, il pourra lui dire, ce combat contre Dustin Poirier, c'est précisément ce que je veux pas qu'il se passe, et BSD directement, effectivement, il y a une fois où j'étais un peu trop emporté, et comme là maintenant, comme on l'a dit, dans les petits papiers de l'UFC, il va affronter des cracks de chez crack, tu sais que tous les mecs que tu vas affronter, enfin, je veux dire, même un Dan Hooker, tu lui laisses 15 secondes, tu peux très vite ne plus savoir où t'es parce que le combat s'est terminé. Michael Chandler, pareil, Justin Gaethje, idem. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est un mal pour un bien le fait qu'il y ait eu le point faible de BSD, ou en tout cas, l'endroit où il y avait le plus de danger, qu'il ait été exposé de cette manière. Pour la suite, ça peut être très intéressant pour lui.
Ouais, je suis d'accord. Et donc, quand on dit entre guillemets point faible, c'est la défense en. Juste en striking par rapport à l'anglaise où ça
il y a pour l'attaque
des ouvertures. Ouais, c'est ça, c'est. Et en fait, j'ai vu des gens dire bah oui, mais attendez, Pereira c'est 100% attaque aussi, il a les mains basses aussi, et pourtant il éclate les mecs. Alors c'est vrai, mais déjà c'est vrai jusqu'à ce qu'il se fasse contrer par Adesanya. Alors c'est Adesanya, je sais, que... mais c'est la même raison, c'est-à-dire que c'est parce qu'il a les mains basses aussi, parce qu'il est tout pour l'attaque, que c'est arrivé aussi. Et mine de rien, Pereira aussi, il y a des, comment est-ce qu'on appelle ça, il y a des choses qu'il fait pour que ça n'arrive pas non plus, que ce soit des mouvements de buste légers, des mouvements de tête. C'est, il a un degré de sophistication défensive, malgré le fait qu'il soit 100% attaque, quand même supplémentaire, qui fait que, en fait, il prend des coups, mais il n'en prend pas autant qu'on pourrait penser Pereira, parce qu'il a quand même un coup d'œil, des réflexes et une responsabilité défensive qui fait que finalement, il n'en prend pas autant, même si à première vue, si tu prends une photo de Benoît et de Alex Pereira, ils ont à peu près des postures similaires, quoi.
Non, moi vraiment, pour baiser, on peut avoir une évolution à la Justin Gaethje, tu vois, même si ouais, c'est un grave. Style différent où le gars prend vraiment conscience de, bah, il y a un certain niveau à partir duquel Gaethje, c'est donc Dustin Poirier, Eddie Alvarez, coup sur coup, où tu ne peux plus avoir ce style où tu te dis de toute façon, les mecs, je vais finir par les briser. Non, et à un moment donné, il faut rester un petit peu plus discipliné. Vous voyez aujourd'hui Gaethje, à part contre les grappleurs, il termine absolument tout le monde. Tisha out à ma sweet pea, ma sweet protein. Moi, 30% minimum sur tout my sweet pea avec le code la soirée. Holy moly, révolution dans les boissons énergisantes. Les gars, ils font d'été glacer des boissons de réhydratation et des boissons énergisantes, comme j'ai dit. Code la soirée 5 pour votre
comme
première commande. Moins 5 euros Big Rusty. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la soirée 10, moins 10%. On se retrouve très vite. See ya.
See ya.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.